Chapitre 2. Vincent s'élance dans le clair de lune. À peine a-t-il dépassé les limites de la pelouse que l'ordre du prince claque. Bref, dans sa langue incompréhensible, mais sur un ton aboyé sans équivoque. Ses hommes se précipitent aussitôt, telle une meute de loups en chasse, silencieux et déterminés. Vincent n'a pas peur. Paradoxalement, il est même heureux. Sa course est régulière. En lui monte une sorte de jubilation. Il enjambe les massifs, évite les obstacles sans ralentir en direction de l'hôtel particulier. Les sbires du prince sont à ses trousses. Vincent sait que pour ne pas ameuter les gendarmes qui patrouillent régulièrement dans ce quartier huppé, ils préféreront le tuer au poignard plutôt qu'au pistolet. Ils ne pourront donc pas l'assassiner de loin. Cela lui vaudra toujours quelques mètres de répit supplémentaires. D'un bond, il escalade les marches de la terrasse arrière, pénètre dans le salon qui donne sur les jardins et jette un coup d'œil derrière lui. La pénombre l'empêche de bien évaluer l'écart avec ceux qui le traquent. Tant pis. De toute façon, la partie s'annonce serrée. Sans hésiter, il s'engage dans le couloir traversant qui rejoint l'avant du bâtiment. Les voix de ceux qui le pourchassent lui parviennent. Mais Vincent est trop concentré pour avoir le loisir de s'inquiéter. D'ailleurs, à ses yeux, cette mise à l'épreuve n'est finalement qu'un jeu. Il risque sa vie, mais cela lui importe peu. Il n'ignore plus la fragilité de l'existence. Il sait à quel point, lorsque tout s'accélère, penser au futur ne sert à rien. Il faut ressentir l'instant, s'y consacrer entièrement, sans songer à rien d'autre, en pariant qu'il y aura un après. Vivre, c'est se relever en permanence des minutes qui précèdent le présent. Il a eu l'occasion de l'apprendre. Ce qui se joue se résume à une banale partie de cache-cache, comme celle qu'il affectionnait tant lorsque sa vie était encore simple. Ce soir, il bénéficie toutefois d'une cachette beaucoup plus sophistiquée et d'adversaires nettement moins amicaux. Si par malheur il devait perdre, il ne pourrait pas, cette fois-ci, se relever en riant. Arrivé entre deux imposantes statues grecques, il cesse de courir. Elle se dresse à la moitié du couloir, face à face, dans des niches. Une déesse et un dieu. Aphrodite et Arès, l'amour et la guerre. Vincent se glisse derrière la déesse. Il va avoir besoin de sa bienveillante protection, car ses poursuivants envahissent déjà les salons. Il enlace la divinité, serrant son drapé de pierre avec respect, tout en évitant d'effleurer son sein dénudé. Rester fidèle à ses principes, quelles que soient les circonstances. Du pied, il actionne le mécanisme secret situé à l'arrière du piédestal. Aussitôt, c'est toute la niche qui s'ébranle et descend comme un ascenseur, emportant vers les sous-sols l'homme agrippé à celle qui lui sauve la vie. Dans une translation verticale, l'ensemble est immédiatement remplacé par une reproduction exacte venue d'au-dessus. Deux niches aux statues identiques superposées qui se décalent. Le glissement est rapide, feutré. En un éclair, Aphrodite s'enfonce avec son protégé pour être remplacée par son double auquel personne n'est accroché. La substitution est parfaite. Grâce à un jeu complexe de poulies et de contrepoids, l'alcôve de Vincent atterrit en douceur dans une pièce secrète installée au cœur des soubassements. C'est dans cette retraite enterrée qu'en cas de besoin, l'hôte du lieu pourra séjourner 3 jours avec suffisamment de vivres et dans un confort satisfaisant. Cet aménagement, protégé contre toute intrusion, s'est imposé lorsque le prince a refusé l'option d'un tunnel d'évacuation, trop coûteuse et trop longue à construire à son goût. Serrant toujours sa bienfaitrice de plâtre dans ses bras, Vincent tend l'oreille. De l'étage supérieur, lui parvient le son étouffé de la cavalcade. Les tueurs ne font que passer dans le couloir, sans s'arrêter ni pour la guerre, ni pour l'amour. Il sourit. D'un murmure, il remercie la déesse et se dégage. Curieux de la suite des événements, il rejoint le panneau où s'aligne une série de bouches qui, à travers un réseau de tubes, lui permettent d'entendre tout ce qui se passe dans la résidence. Le son des voix passe du tuyau marqué « hall principal » à celui de « l'office » puis de la chambre de maître. Les hommes du prince investissent désormais les étages. Ils fouillent chaque pièce. Les portes sont ouvertes sans ménagement, y compris celles des placards. Certains des tueurs ressortent déjà dans le jardin, sans doute convaincus que leur cible y a pris la fuite. Savourant le fait d'être toujours en vie, Vincent se glisse avec volupté dans l'élégant fauteuil de velours qui trône sur un tapis d'Orient. Ce soir, c'est le sien. Cette nuit, il est le maître du jeu. Le travail accompli avec son équipe lui a sauvé la mise. Il souffle. Sa respiration et ses battements de cœur s'apaisent peu à peu. Il pense à son frère, Pierre, et à ses amis avec qui il fabrique ses mécanismes uniques, petits chefs-d'œuvre d'ingénierie. Les cachettes et passages dérobés, aussi variés et imaginatifs soient-ils, ne répondent jamais qu'à un seul but, garantir la sécurité de ce qui compte le plus pour le commanditaire. Une personne, un trésor, un secret. Ces illusions associant trompe-l'œil et mécanismes virtuoses ne sont au service que de cela. Tous les êtres n'ont pas forcément quelque chose à cacher, mais tous ont quelque chose à protéger. Vincent n'éprouve pas de fierté excessive quant à ce que son équipe et lui ont créé, mais il en est heureux. Ce sont des réussites éclatantes et modestes que personne ne doit admirer, puisqu'elles ne sont pas supposées exister. L'intelligence de conception et l'excellence de réalisation doivent s'effacer au service de la fonction. C'est l'une des règles d'or de ce métier qui n'en est pas un. Vincent perçoit des éclats de voix venus du tube qui espionne le hall. Il reconnaît le phrasé du prince. S'il ne comprend pas ses propos, il en perçoit la colère. Pourquoi son Altesse s'énerve-t-elle ainsi sur sa horde? Espérait-elle vraiment que ses hommes parviendraient à l'éliminer? Se rend-elle compte que l'incapacité de sa bande à le débusquer est la meilleure garantie possible de sa propre sauvegarde? Vincent se moque de ce que pense le prince, pourvu qu'il paye. Le travail est achevé, la mission remplie. Comme à chaque fin d'engagement, d'autres questions, bien plus importantes pour lui, refont surface, des craintes surtout. L'une d'elles, particulièrement aiguë, fait irruption. Que seraient devenus ses proches s'ils s'étaient fait tuer? Qu'adviendrait-il de l'équipe s'ils disparaissaient? Bien qu'ils ne fassent que travailler ensemble, ils constituent sa seule famille. Vincent se sent responsable d'eux. L'adrénaline se dissipe en lui. Il le regrette, car pendant qu'il cavale, alors qu'il actionne ses spectaculaires tours de passe-passe, tout va si vite qu'il n'y a soudain plus de place pour les questions existentielles. L'urgence étouffe les doutes et congédie les compromis. Plus le temps de se perdre dans les brumes ou les ombres. Quand tout s'emballe, seule sa nature profonde s'exprime. Ce qu'il est au plus intime guide chacun de ses gestes. Il se situe tout à coup hors du temps, échappant pour une brève parenthèse à tout ce qu'il sait, à tout ce qu'il redoute. Pour Vincent, le poids du monde s'efface alors, pour un instant d'éternité.